ben en fait, ça s'est assez vite goupillé. C'est-à-dire que dès la première saison, j'étais à la montagne, j'avais un ordi, j'avais une petite caméra. Donc j'ai commencé à faire des vidéos et à faire des vidéos aussi de manière professionnelle parce que je me suis rapproché d'une petite boîte de prod qui était sur Valsony. J'ai essayé de faire des petits reportages avec lui, de lui donner des coups de main, on a fait des clips ensemble. Et en fait, il m'a pas mal appris les techniques de base de vidéo qui m'ont après permis de m'épanouir un peu plus personnellement là-dessus. Donc c'était de l'action. Globalement, avant, c'était une grosse musique qui envoie, de l'action, et on essaie de faire des choses les plus impressionnantes possibles pour impressionner la galerie. Et ça, en général, ça s'arrête là. J'ai essayé de lancer des petits concepts de webisodes. Il y en a pas mal qui sont passés, hein. Il y a eu des podcasts, il y a eu Bimbo Show, enfin c'était un tel bordel. Parce que globalement, je fais les choses pour moi, parce que j'adore ça. Des fois, je suis devant mon montage pendant 3 heures et j'adore. J'éclate de rire, je fais des petits trucs qui marchent, je suis trop content parce que je trouve qu'il y a des blagues qui, si c'est pas bien monté, bah ça marche pas du tout.
Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremaux, voyageur et aventurier à mes heures perdues. J'ai créé le podcast Un bol d'air avec pour seul but de vous faire découvrir la face cachée de la vie des plus grands aventuriers, voyageurs et sportifs de ce monde, pour connaître tous les engrenages et les rouages qui façonnent finalement l'image publique que nous avons d'eux. L'idée est très simple, prendre 1 heure de leur temps pour vous partager les anecdotes les plus folles et vous faire rêver un peu. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Mickaël Bimboès. Bonjour Mickaël.
Salut Pierre-Arnaud.
Merci de prendre ce temps. Écoute, je suis ravi de pouvoir avoir l'occasion d'échanger avec toi. Pour ceux qui nous écoutent, la petite anecdote, c'est que la semaine dernière, quand on avait prévu ça, tu étais à 4000 de haut et tu m'as quand même répondu au téléphone. Donc j'avoue que j'ai senti un petit moment de... Oh là là, il a pris son téléphone dans la main, il avait les deux manettes dans l'autre main, mais il m'a répondu.
C'était pas un moment trop technique. J'étais en train de voler en parapente, mais des fois tu peux te permettre de faire des stories ou juste de décrocher au téléphone, ça passe.
Bah ça m'a fait un effet non négligeable. Je te propose peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas de te présenter.
Eh ben, je m'appelle Mickaël. Je fais principalement du ski depuis plus d'une dizaine d'années. Et je suis vidéaste passionné, donc j'ai été amené à ouvrir plusieurs chaînes YouTube et j'en suis à la 4e. Je viens de regarder le pré-montage du premier épisode de notre 4e chaîne YouTube, donc je m'épanouis dans surtout la vidéo et pas mal les sports extrêmes, notamment le ski.
Ok, et alors ton métier, il est plutôt sport extrême ou il est plutôt vidéo?
Je pense qu'actuellement, il est plutôt vidéo. Okay. Et pour moitié rénovation. C'est encore une autre affaire, mais c'est ça qui m'occupe.
On va en reparler. Est-ce qu'on peut peut-être reprendre la genèse de ce sport extrême? Tu dis 10 ans dans les sports extrêmes. C'est quoi le début ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a un peu lancé sur cette voie-là?
Bah, je dis 10 ans parce que ça fait plutôt 12-13 que je m'y investis énormément. Mais ce qui m'a lancé, c'est à la base juste de partir en vacances avec mes parents et de faire du ski en famille, tranquille. Et comme ils aimaient bien faire un petit peu de poudreuse, eh ben tu vas à côté de la piste et puis après tu vas un peu plus loin et puis tu sautes les premiers cailloux et puis après tout s'enchaîne et en fait arrivé à l'adolescence t'as envie de faire plus, t'as envie d'aller plus loin, plus haut. Et du coup avec un peu la confiance qu'ils m'avaient donnée au début, ben je suis parti avec les copains un peu tout seul aller découvrir d'autres sommets.
Alors c'est quoi les déclics du coup? Comment tu te rends compte que ça va t'intéresser? Quelles sont peut-être les sensations que ça te procure et qui te donnent envie de recommencer?
Je me souviens d'un truc, c'est d'avoir regardé pas mal de vidéos pendant un été où forcément tu es frustré parce que tu peux pas skier tout l'été, voire entre les périodes de vacances scolaires, parce que moi je skiais que pendant les vacances scolaires, donc les week-ends, les mercredis, tout ça, c'était pas du tout mon truc. Ça me donnait des énormes périodes de frustration où j'étais à l'école, à la maison, où je faisais du volet et j'avais envie d'aller skier. Et du coup, je regardais pas mal de vidéos de, notamment la nuit de la glisse, de ski hors piste, de ski extrême, comme on l'appelait à l'époque. Et après, quand je me retrouvais pendant les vacances scolaires dans la petite station dans laquelle j'allais d'habitude, qui s'appelle les Caralis, eh ben, il y avait une montagne globalement qui était la petite face nord, et j'avais qu'une envie, c'était la descendre. En fait, le premier gros déclic, c'est qu'à 18 ans, je me suis dit, je vais monter là-haut, ça prend 5 minutes avec les skis sur l'épaule. Et j'avais repéré une belle ligne et puis je l'ai faite. Du coup, c'était un peu peut-être inconscient parce que j'avais pas de DVA, j'avais pas d'équipement, j'avais juste un sac à dos avec une pelle parce qu'au cas où je tombe sur le dos, ça pouvait me protéger. Je connaissais même pas les dorsales. Donc c'était un autre monde, mais c'est comme ça que j'ai eu envie d'aller plus loin, chercher des choses qui étaient un peu intéressantes, parce que visuellement ça me paraissait bien, et puis la sensation de skier dans la pente, c'est surtout la pente qui devient intéressante quand il y a de la poudreuse, parce que tu t'en prends plein la tête, ça passe au-dessus des épaules, et c'est ça qui est cool.
Et puis toi qui parles de vidéos aujourd'hui, tu devais pas avoir le même type de matériel à l'époque quand t'as commencé, si t'as fait tes propres petites vidéos de l'époque
Ouais, je filmais avec une petite caméra de mon père. Il avait une mini DV qui enregistrait en 480 pixels, donc c'était vraiment la qualité la pire sur YouTube qu'on peut voir actuellement. Et il faisait des films de vacances déjà depuis qu'on était tout petit, parce que lui, il aimait bien manipuler un petit peu cette caméra et raconter nos histoires. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis mis à prendre la caméra, à la passer aux copains, à se filmer mutuellement et à faire du montage aussi pas mal derrière à partir de 15 ans. Pour essayer d'illustrer les vacances qu'on passait avec les copains à la montagne.
Et tu parles du coup de vacances scolaires. Qu'est-ce que tu fais comme étude du coup à ce moment-là pour parler effectivement de séances un peu séquencées?
Je pense que pendant l'adolescence, je suis un cursus complètement normal. Donc, ni de sportif de haut niveau, ni quoi que ce soit. Je suis en troisième, seconde, première, classique en section générale. Après, j'ai décidé, parce que j'avais plus ou moins envie d'être dans le sport, de faire une fac de sport. Mais clairement, ça ne m'a pas trop influencé, en tout cas dans la suite. C'était juste des études relativement faciles et puis où j'avais pas mal de temps à côté pour justement pouvoir profiter de partir à la montagne, ce qui est un maximum.
Et ce métier-là, tu ne l'as jamais fait finalement? Tu as très vite basculé dans autre chose ou tu as quand même commencé ce boulot avant de te rendre compte que tu pouvais faire mieux avec d'autres activités perso à côté?
Non, j'ai pas fait ce boulot, j'ai fait un stage en licence. Et du coup, j'ai fait « Ah, c'est ça !» Ce que je voyais de très loin, ce métier de prof de sport en lycée ou en collège. Et ça me donnait pas envie du tout d'apprendre à enseigner des sports qui me plaisaient pas spécialement. Alors là, c'était dur. Mais mes deux parents sont profs, du coup, par automatisme, ils m'avaient dit « C'est une bonne situation, tu vas voir, tu auras plein de vacances scolaires. » Du coup, je me disais que c'était peut-être quelque chose d'intéressant, mais c'était pas pour moi.
Et à partir de quand, du coup, tu te rends compte que c'est pas ça ta vocation, toi? Qu'est-ce qui fait le déclic de faire autre chose de ta vie, en l'occurrence, à la place peut-être de ces années d'études?
Il y a eu un déclic particulier, c'est... J'ai fait une compétition de freestyle, parce qu'à l'époque, je faisais un peu de freestyle aussi. Je faisais des backflips, des 360, des 720. Et du coup, je me sentais à l'aise. Et à Amnéville, qui est la seule piste de ski indoor en France où tu peux skier dans un frigo. Il y avait, comme je viens de là en fait, je viens de Moselle, et il y a une piste de ski indoor qui s'est construite en 2007 il me semble, ou en 2004. Et pendant mes études de fac, j'allais pas mal skier les étés notamment, où je passais une soixantaine d'heures. Parce que c'est à l'heure, tu vois, c'est des tickets que tu achètes et tu as des crédits à la minute, tu passes le tourniquet, une fois que tu es dans la piste, ça décompte, et une fois que tu sors, donc tu as un forfait comme ça. Et j'avais passé pas mal de temps sur cette piste de ski. Et il y a eu un événement d'organiser avec du rail et puis un peu des sauts, donc un peu big air et un peu rail. Et j'ai rencontré un gars qui m'a dit « Ah, mais si tu veux aller à la montagne, t'as qu'à faire une formation avec l'UCPA, parce qu'ils te logent, ils te nourrissent. Si tu passes le test de sélection, tu peux devenir moniteur de ski. Et après, tu n'as pas besoin de logement, tu es dans un centre de vacances et tu enseignes. Et en même temps, tu te formes à être moniteur de ski, en même temps que tu encadres et que tu fais un peu des petits boulots dans le centre. » Et donc, à partir de ce moment-là, je suis arrivé à la maison et j'ai fait « Bon, j'arrête les études. Je vais à la fin de la licence. En août, il y a un test de sélection, je vais le faire. Ça va marcher. Et puis après, roule ma poule, je me casse à la montagne. »
Ok. Du coup, et t'étais aussi sûr de toi comme ça, t'as pas douté à un moment donné que ce test ne puisse pas aboutir ou que cette sélection tu puisses pas la passer?
J'ai douté un petit peu, et ce que j'ai fait, c'est qu'à Pâques, la dernière vacance scolaire à la montagne avant que ça se passe, j'ai passé une flèche histoire de voir un peu comment je me situais dans un tracé, parce que j'avais pas fait de slalom depuis je crois que j'ai fait un slalom dans ma vie quand j'avais 9 ans. Et je suis revenu dans un tracé. Et ça s'est pas trop mal passé. J'avais loué des skis pour l'occasion. J'ai eu la flèche d'or, qui est pas forcément très représentatif d'un niveau en club, mais qui permet de voir que ça glisse quand même, tu vois. Du coup, avec ça, dans ma tête, j'étais les tests de sélection, si je me débrouille bien, ça devrait passer. Et comme je suis d'un naturel optimiste, je pense que je suis parti là-dedans tête baissée, et puis c'est passé, donc j'ai bien fait d'y croire.
C'est énorme. Ça veut dire qu'à partir de la rentrée septembre qui suit, tu changes complètement de ton métier et tu deviens moniteur de ski à plein temps, quoi.
Voilà. J'avais pas du tout d'autres projets. D'ailleurs, tout l'été, je m'étais pas inscrit à l'UFM. Je m'étais pas inscrit pour continuer les études. Le test de sélection, c'était le 15 août. J'avais la réponse peut-être 2 semaines après, début septembre. Et j'avais pas de plan pour septembre. Et je suis rentré en formation, je crois, le 10 octobre. Donc, j'ai eu un mois de vacances un peu tranquille. Et après, c'est formation intensive, préparation physique. On essaie de voir les points faibles et les points forts. Et puis, on travaille sur les choses pour avoir le plus de chances possible de devenir moniteur.
Et vous êtes combien de formés par promotion? Enfin, ça marche comment en termes de quantité? Et combien qui vont réussir d'ailleurs cette formation?
Je pense que il y a une quarantaine de sélectionnés par an à l'époque. Hein. Ça a changé puisque c'était en 2007-2008. Première saison, du coup une quarantaine de sélectionnés et en fait après on est chacun dispatché dans tous les centres de France pour encadrer pendant les vacances scolaires, donner des coups de main, se former et sur ma promo, sur les 40 qui ont passé le test de sélection, qui l'ont eu, qui sont rentrés en formation, après il y a globalement, j'ai eu de la chance que j'ai été le seul à rentrer dans la vraie formation de l'ENSA, qui est le centre de formation pour les moniteurs de ski. Donc l'UCPA, il t'entraîne pour aller t'envoyer et passer les vraies épreuves pour devenir moniteur de ski. Et à partir du moment où tu es dans le vrai cursus de moniteur de ski, tu peux enseigner pour de vrai. Et avant ça, tu es juste là pour donner des coups de main. Du coup, sur les 40, j'ai été le seul à passer le test technique, qui est le premier test au niveau de l'ENSA. Mais sur les 40, il y en a 25 qui maintenant sont moniteurs de ski. Donc, ça prend juste plus de temps. Mais tous ceux qui choisissent globalement cette branche ont de bonnes chances de réussir à la fin. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ils ont une formation qui fait ski et voile. Du coup, il te propose une biqualification où il t'entraîne pour le ski l'hiver et pour la voile l'été. Et donc, tu pars sur les centres auprès de la Cano à Bombane où tu te formes en voile. Et il y a ce qui est un peu fou, c'est qu'il y a des skieurs qui sont à la base skieurs, qui connaissent rien à la voile et qui se disent « moi, je veux faire la biqualification ». Et donc, ils vont partir de zéro en voile et en 2, 3, 4 ans, devenir moniteur de voile avec énormément d'expérience parce qu'ils pratiquent tout l'été, ils sont sur l'eau, quoi.
Ah, mais c'est canon. Du coup, tu fais des espèces de saisons, saison de 6 mois l'hiver à la montagne et saison de 6 mois l'été à la mer, quoi.
Exactement. Et c'est comme ça que la plupart des centres UCPA, ils tournent, en fait, parce qu'ils forment leurs propres moniteurs et ils permettent de les dispatcher. Tu as un statut de salarié, c'est confortable.
Et quand tu dis on te forme, du coup, à être moniteur, toi qui avais déjà cette connaissance de ski, peut-être pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui manque, tu vois, dans la pédagogie que tu dois apprendre, peut-être est-ce que c'est la capacité de démultiplier les mouvements pour les montrer? Est-ce que c'est un aspect tu vois, j'arrive pas à me rendre compte qu'est-ce qui manque en tant que bon skieur pour devenir moniteur.
Alors déjà, moi j'étais pas bon skieur et j'ai vraiment appris énormément techniquement pendant la formation, donc j'ai changé complètement mon style, j'ai appris comment skier correctement et efficacement. Avant, je me baladais, j'étais un peu habile, mais c'était vraiment pas du tout du ski académique. Et donc, on t'apprend à skier correctement, de manière efficace. Et en t'apprenant à skier correctement, on te donne les billes pour comprendre ce que c'est qu'être bon. Donc, une fois que tu as compris ta propre progression, tu peux après, assez logiquement, la reproduire sur les élèves. Et on te donne des billes pour apprendre à un débutant qui n'a jamais chaussé des skis à chausser des skis. Parce que toi, tu l'as appris quand tu avais 2 ans, et puis tu te retrouves face à quelqu'un qui ne sait pas chausser des skis. Tu lui dis, bah vas-y, mets ton pied sous le ski, et puis ça marche. Et en fait, non, ça ne marche pas.
Et alors, du coup, tu enchaînes combien de saisons comme ça en tant que moniteur? Enfin, ta vie, du coup, est restée dans ce sens-là en pendant combien de temps avant de passer sur les étapes suivantes, notamment avec les chaînes YouTube, toute la partie vidéo? Quand est-ce que ça commence à venir dans ta vie, ça?
Eh ben, en fait, ça s'est assez vite goupillé. C'est-à-dire que dès la première saison, j'étais à la montagne, j'avais un ordi, j'avais une petite caméra. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos et à faire des vidéos aussi de manière professionnelle parce que je me suis rapproché d'une petite boîte de prod qui était sur Valsony avec Philippe Roger qui, s'il m'écoute, je passe le bonjour. Et on a travaillé ensemble, il avait une boîte de prod et puis j'essayais de faire des petits reportages avec lui, de lui donner des coups de main, on a fait des clips ensemble. Et en fait, il m'a pas mal appris les techniques de base de vidéo qui m'ont après permis de m'épanouir un peu plus personnellement là-dessus. Mais du coup, j'ai assez vite suivi toutes les branches qui sont importantes maintenant pour moi. C'est-à-dire que je me suis mis au freeride aussi un peu plus de manière intensive dès la première année, avec du matériel, avec les copains. On avait des demi-journées où on partait en hors-piste avec tous les jeunes du club, tous les jeunes de l'UCPA, on était encadrés par des vrais moniteurs. Et donc, tout s'est développé un peu à partir de là, en branche de tous les côtés, quoi.
Alors, aujourd'hui, on parle de la quatrième chaîne YouTube. C'est quoi la première? C'est quoi les idées, peut-être, que tu avais en tête quand tu as imaginé cette première chaîne?
Bah, la première, c'était déjà ma chaîne perso. C'est-à-dire que j'avais une chaîne en mon nom, comme la plupart des gens avaient une chaîne à leur nom à l'époque. Du coup, je faisais juste des vidéos de ski en essayant de me caler sur ce que j'aimais bien regarder. Donc, c'était de l'action. Globalement, avant, c'était une grosse musique qui envoie, de l'action, et on essaie de faire les choses les plus impressionnantes possibles pour impressionner la galerie. Et ça, en général, ça s'arrête là. Et après, donc, en ayant changé de spot, en ayant quitté l'UCPA, j'y suis resté pendant 3 ans, juste le temps de ma formation, où dès que je suis devenu moniteur diplômé, avec le droit d'encadrer en hors-piste, avec le droit d'encadrer n'importe quel niveau, je suis passé une année à l'ESF pour avoir plus de temps pour moi, parce que globalement, quand même, à l'UCPA, il faut travailler 35 heures par semaine, et ça laisse pas énormément de temps ni pour aller rider tout seul, ni pour faire du montage ou faire d'autres choses, ni pour faire des compétitions, parce que pour faire des compétitions, il faut prendre 3-4 jours sur une semaine, et quand tu dis à ton chef « je me barre jeudi matin », il n'est pas content parce que tu n'as fait que 3 jours dans la semaine. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'anecdotes où avec la hiérarchie, ça passait pas très bien forcément. Parce que en plus d'être taxé de freerider ou quelqu'un qui est un peu borderline, j'ai essayé de négocier toujours, pas pour travailler le moins possible, mais juste pour pouvoir me barrer au moment où il fallait que je me barre pour faire des compètes. Et une des dernières fois, ça s'est fini où j'ai dit bon ben plein mois de février, j'avais tout organisé avec mon groupe pour qu'il y ait un autre moniteur qui les prenne au moment où je partais, et j'étais censé partir le soir et j'avais juste pas prévenu mon chef hiérarchique, mais j'avais prévenu le directeur du centre. Donc le directeur du centre, je lui ai dit pas de souci, je pars ce soir pour faire la compétition en Andorre, un truc comme ça, et j'ai tout prévu, tout est calé. Et le problème, c'est qu'il en a parlé à son directeur technique. Est-ce que Michael, il t'a dit qu'il partait ce soir? Et l'autre, il a dit non, je suis pas au courant, c'est quoi ce bordel? Donc, convocation, grosse mise de pression, et je leur ai dit, bah, moi, j'ai pas le choix, je m'en vais, donc soit vous me virez sur le champ, soit j'ai tout organisé et ça pose pas de problème. Et donc, je me suis mis des face-à-face un peu sévères.
Et tu t'es fait virer, du coup?
Du coup, je ne me suis pas fait virer parce qu'ils avaient trop besoin d'un moniteur plein mois de février. En fait, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui, c'était un petit peu... j'avais réfléchi à tout ça avant quand même. Parce que plein mois de février, tous les moniteurs travaillent. Et si tu te retrouves avec un centre UCPA avec un moniteur de moins, ben, tu te retrouves avec un groupe de moins et il y a tous les gens qui ont booké leurs vacances. Ils viennent, donc faut que ça tourne, quoi. Donc ça s'est plutôt bien fini. Mais l'année suivante, j'ai pas retravaillé dans ce centre. Je suis allé à l'ESF pour travailler que 6 semaines pendant l'hiver.
Ok, donc avec l'ESF, pour le coup, t'es pas à full time toutes les semaines, tout le temps. Tu fais les 6 semaines de la saison et c'est tout.
Bah avec l'ESF en plus, oui, il y a des gens qui sont full-time, qui sont en moniteur depuis très longtemps, mais tu as un tableau, donc le dernier arrivé et le dernier qui a du travail. Donc quand tu es dernier arrivé, il faut que tous les autres devant toi ils aient du travail pour que toi tu travailles. Donc globalement, il y a la première moitié qui travaille tout le temps et il y a la dernière moitié qui travaille que pendant les vacances scolaires. Noël, 3 semaines à peu près, et février, 4 semaines.
Et donc là, sur cette partie ESF, du coup, tu voulais un peu de temps pour toi, tu m'as dit, pour aussi continuer à monter, pour te perfectionner dans cet aspect technique.
Bah pour publier plus de vidéos, pour tourner plus de vidéos. J'ai essayé de lancer des petits concepts de webisodes où il y en a pas mal qui sont passés. Hein. Il y a eu des podcasts, il y a eu Bimbo Show, c'était un tel bordel. À chaque année, je faisais une nouvelle série, un nouveau concept qui était clairement le même concept que l'année d'avant avec un nom différent. Et ça s'enchaînait comme ça et ça marchait assez bien avec Zapix et Skipass qui étaient très forts sur le... Je sais pas si tu connaissais ça, mais dans l'univers du ski, tu avais un site qui condensait 80% du trafic et c'était okay. Skipass. Il y avait un énorme forum, c'était tout le monde parlait de Skipass, il y avait un magazine.
Si, ouais, Skipass, ouais, j'en ai entendu parler.
Ça lançait, si tu voulais chercher un test de ski, si tu voulais chercher une station de ski, si tu voulais chercher un avis sur quoi que ce soit, tu trouvais, t'allais sur Skipass. Ça a bien changé. Mais...
Et alors, comment tu te rémunères du coup avec ces vidéos, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu en fais ta vie, qu'est-ce qui fait que tu peux y consacrer toute ton année
Actuellement.
Non, à l'époque déjà. À l'époque, tu commences à faire le déclic, j'imagine, puisque
non, à l'époque, qu'est-ce qui m'a fait à l'époque, non, mais faut que je reconstruise tout ça parce que du coup, j'étais salarié, donc j'ai eu quand même genre 6 mois ou 1 an de chômage qui m'ont permis de faire une transition de tout un été sur laquelle j'ai rénové un appartement. À Valsenis, parce que j'étais avec une copine et on avait envie de s'installer là-bas. Ça nous paraissait intéressant. Et puis, il y avait une super affaire immobilière, un truc pas cher, tout à rénover dans un état pas possible, tout délabré. Et en fait, donc on a passé un an complet à le rénover. Et ce qui nous a permis, à la séparation, de le revendre et puis de gagner un peu d'argent. Et avec cet argent, j'ai pu faire les 2 premières années où j'ai pas travaillé du tout l'hiver. Pour justement me consacrer simplement aux vidéos et aux compétitions et acheter un camping-car et passer mon hiver dans le camping-car à faire toutes les routes d'Europe.
C'est énorme. Est-ce qu'on peut faire une pause matérielle, savoir un peu qu'est-ce que tu utilises comme matériel quand tu parles de vidéos, comment tu fais tes rushs, tu vois. Est-ce qu'on peut faire une petite pause matérielle?
J'utilise un GH4. J'ai assez vite utilisé Canon parce que le Canon 7D c'était la base avant pour faire des films un peu stylés avec un petit grain, avec le bon objectif, c'était joli. Et j'avais un pote qui avait un GH4 Lumix qu'il avait acheté genre un an avant moi, il avait payé moins cher. Il filmait en 4K, il filmait en 1080 au ralenti, alors que moi, j'arrivais même pas à faire du 1080-50 images secondes. Donc, c'était vraiment beaucoup moins bien. Et après, du coup, j'ai tout switché. Donc, que des GoPro et le GH4, tout GH5 actuellement. Mais j'ai encore mon GH4. Et après, on utilise des petits stabilisateurs ou pas. En fait, c'est un peu de la bricole, la vidéo, parce que en fonction de ce que tu veux montrer et ce que tu veux faire passer, eh ben, il faut que tu sois un peu, il faut que tu imagines des choses et il faut que tu crées des trucs qui n'existent pas forcément. Par exemple, on s'est rendu compte assez vite sur nos vidéos de ski que le son n'était pas bon. Et au début, avec les GoPro 4, en fait, il y a un caisson étanche dans lequel tu mets la GoPro. Et on perçait le caisson avec un forêt de 10 et on mettait une moumoute pour que le son y rentre, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de bruit devant. Donc amorti par une moumoute, c'est des petits cheveux qui amortissent le bruit du vent pour qu'on ait un bon son. Et parce que la plupart des vidéos, on se disait « putain, ça manque de son, quand on parle, on ne nous entend pas bien ». Et du coup, c'est ça qui a aussi fait évoluer pas mal la création, c'est qu'au niveau technique, on a pu avoir un bon niveau d'image et de son. Et une fois que tu as ça, bah, tu n'as plus qu'à faire. Quoi.
Ok. Quand tu fais donc cette première chaîne où tu enchaînes tous les ans des mini-concepts, ça c'est toujours la même chaîne ou est-ce que c'est déjà une deuxième chaîne, juste pour comprendre un peu la logique?
Alors ça, c'était toujours la même chaîne et c'était sur ce qui passe au début. YouTube, c'était 1% du trafic, c'était 1% des vues, c'était 10 000 vues sur ce qui passe et 250 vues sur YouTube. Mais assez vite, en fait, sur YouTube, c'était un peu random. Donc, tu pouvais avoir une vidéo qui faisait 60 000 vues ou 100 000 vues parce que YouTube la mettait en avant et puis hop, c'était parti, elle buzzait. Tu ne savais pas pourquoi, tu ne savais pas auprès de qui, tu ne savais pas comment. Mais ça marchait. Donc, c'est pour ça que j'avais toujours gardé un peu YouTube pour essayer de faire marcher des vidéos de manière aléatoire. Et au moment où on lance avec Rémi et Solane, parce que entre-temps j'ai changé d'endroit, je suis venu m'installer à Courchevel parce que j'avais fait la rencontre de Solane Desjouy en compétition en Nouvelle-Zélande et c'était un jeune avec qui je m'entendais super bien et il m'avait dit bah si t'en as marre des arcs parce que à ce moment-là j'étais aux arcs, ça a tourné hein, dans les stations, je vous raconte même pas. Entre temps, j'avais fait un autre projet dont on parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses, il s'est passé beaucoup de choses dans ces 15 dernières années. Et du coup, je suis venu m'installer à Courchevel et avec ces deux potes, Rémi et Solane, on s'entendait vraiment super bien et on s'est dit, il faut faire des vidéos où juste il y a de la bonne humeur, du ride, on se filme un petit peu sur 2-3 jours et puis roule, ça fait une vidéo sympa quoi. Et c'est comme ça qu'est née la chaîne Winter Activity qui en fait était W Interactivity parce qu'il y avait de l'interactivité entre des gens plutôt pendant l'hiver. Voilà, c'était le concept.
Et toujours pareil avec plusieurs concepts qui s'entremêlent ou en tout cas qui s'enchaînent selon les années, j'imagine.
Mais la première année, ça a été juste 4 épisodes. Donc 4 épisodes qui étaient juste plusieurs journées de ski où on s'amuse et où on essaye de faire... Que le partage d'expérience soit intéressant à regarder et divertissant à l'image. Donc il y a pas mal de montage derrière, mais ça se limitait à ça. Quoi.
Et pourquoi tu penses que ça intéresse autant les auditeurs d'avoir des images comme ça de skieurs qui descendent? Qu'est-ce qui, selon toi, suscite leur intérêt?
Alors ça marche vachement moins bien cet hiver, par exemple, ouais. Puisque les stations de ski sont fermées, puisque les gens ne viennent pas skier du tout. Donc là, par exemple, cette année, on a continué à faire des vidéos en ski de rando, on a été en Suisse sur les remontées mécaniques, et pourtant, beaucoup moins de gens sont intéressés par ce genre de choses, simplement parce que dans leur quotidien, il n'y a plus le ski. Donc ils ne vont pas rechercher à regarder des images comme ça. Après, je pense que nous, notre créneau, c'est vraiment du divertissement. Donc on essaye d'avoir un rythme, d'avoir des blagues, d'avoir... quelque chose de visuel et au niveau sonore, ce soit intéressant. Donc, on essaie de faire que ce soit agréable à regarder. Et c'est notre seule règle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est chiant, eh ben faut que ça dégage, on coupe et puis on passe à autre chose. Donc, c'est notre seule limite. C'est quand on le regarde, les gens, ils n'aient pas envie de lâcher avant la fin. Et des fois, c'est vrai qu'on abuse un petit peu sur les rythmes parce que... Au début, je regarde des épisodes de il y a 4-5 ans et c'est stroboscopique. C'est-à-dire qu'il y a un cut toutes les 4 secondes, ça change. En fait, t'as la fin de la vidéo, t'es presque énervé ou parce que ça va trop vite, tout va trop vite. Du coup, t'arrives pas à suivre, t'es frustré et en fait, c'est peut-être ça qui a fait que les gens, ça leur a plu.
Alors du coup, revenons rapidement là sur ce projet-là. Avant ton départ à Courchevel, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le projet des arcs?
Le projet des arcs, c'était un projet avec William Cochet, qui était un très bon ami des compétitions aussi et du ski, et avec qui on s'est dit, bon, on sait faire des vidéos, on sait raconter des histoires, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Moi, j'ai rien à faire, toi, t'as rien à faire. On était assis dans le camping-car tous les deux parce qu'on était partis en Suisse pour une compétition, on avait 2 jours off au milieu. Et donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un moyen-métrage, un truc un peu plus où on raconte quelque chose. Et on a écrit le scénario comme ça, en une heure, en se disant bon, on part d'où, on va où, on fait quoi comme partie, qu'est-ce qu'on raconte. Et ça a donné un an et demi plus tard Antagoniste, qui a été notre premier film de 26 minutes, qu'on a essayé de bien pousser en festival, qu'on a essayé de bien pousser sur les réseaux un peu partout. Et donc c'est juste un film sur deux visions du ski qui sont antagonistes, donc un peu différentes, avec moi qui était très focus compète à l'époque, et William qui était plus focalisé sur le ski plaisir, le ski à la maison, les grands espaces, le côté écolo. Et il a su finalement, là ça fait 2013, c'est presque 10 ans, il a super bien marché, il est passé 200 fois en télé. On est très content d'avoir réussi à faire ça alors qu'on avait vraiment très très peu d'expérience rétrospectivement avec le montage de ce genre de truc et puis la conduite de ce genre de projet. On l'a fait juste à deux et c'était un gros morceau.
Et alors du coup, tu parles beaucoup de compétitions que tu fais par-ci par-là ou en même temps en parallèle peut-être de toutes ces vidéos. Ça représente quoi le rythme à l'époque et peut-être maintenant aujourd'hui, est-ce que ça a changé le rythme de compétition que tu fais dans l'année?
Alors ça a beaucoup changé actuellement parce que j'ai arrêté les compétitions. Ça, okay. Ça aide. Mais au plus, ça a été 12 à 15 compétitions par an. Donc ça fait des 15 déplacements, parfois en Nouvelle-Zélande l'été, pour aller chercher 2-3 compétitions en Nouvelle-Zélande en début de saison. Donc tu vois, au mois de août-septembre. Après, tu reviens en France. En Europe, il pouvait y avoir une dizaine de dates. Parce que donc, à l'époque, je tournais sur les Freeride World Qualifier, qui est la Ligue 2 du freeride et qui te permet de te qualifier sur le Freeride World Tour si tu fais partie des 3, 2 ou 4 meilleurs du Freeride World Qualifier. Tu te qualifies et tu montes sur le Freeride World Tour. Donc à l'époque, on tournait tous avec William, avec Solan, avec tous les copains sur le qualifier et ça représentait du coup tous les 2-3 week-ends, on partait pour 2 compètes, 3 compètes et on revenait.
Et toujours freeride, parce que tu as parlé de freestyle tout à l'heure aussi.
Ouais, mais le freestyle, c'était vraiment une époque perdue au début. c'était tout au début quand j'étais à la fac, où je me disais que j'avais peut-être un espoir. Mais les mecs étaient déjà 10 fois meilleurs que moi.
Pourquoi? Pour le nombre de rotations qu'ils font ou pour leur...
Le style. Ouais, okay. Le style, les rotations, la technique. Moi, je faisais des choses très basiques qui, encore maintenant, sont très très basiques. Mais je l'ai fait toujours, alors c'est plutôt cool. À 35 ans, j'arrive toujours à faire des backflips, des 5-40.
Tant que ça passe. Hein.
Ouais. À 40 ans, je dirais peut-être pas la même chose.
Bon, et alors du coup, on arrive sur la deuxième saison Winter Activity. Qu'est-ce qui se passe ensuite, toujours à Courchevel, j'imagine, pour les deux suivantes?
Toute la suite en fait s'est passée à Courchevel sur Winter Activity. Ça a été focalisé sur l'hiver pendant au moins les 2-3 premières saisons avec du ski, de plus en plus d'épisodes. Après la première année, je pense qu'on avait peut-être 5000 abonnés. La deuxième année par contre, il y a du coup Rémi qui était le troisième du trio qui en fait la première année je me blesse à la cheville et Rémi se blesse 7 jours après en compétition à l'autre cheville. Donc on se retrouve avec chacun les deux chevilles cassées, enfin une cheville cassée chacun, et à être à l'arrêt complet. Et lui, il a dû se faire opérer, donc ça a été un peu plus compliqué de son côté pour la rééduc. Et du coup, l'hiver suivant, il décide de pas revenir à Courchevel parce que il se sent pas encore prêt pour skier correctement, skier à fond. Donc il va faire une saison à Verbier où il devient où il bosse un peu dans un shop. En fait, il arrivait, il avait un certain bagou, il était super super contact humain, donc il bosse dans un shop et il fait des super résultats, il vend des tenues à foison. Enfin, ça lui plaisait, on voyait qu'il s'épanouissait à fond, il était avec une copine géniale et il s'était mis au speed riding de manière un peu intensive. Et le problème c'est que du coup à la fin de cet hiver-là en mars, il décède dans un accident de speed riding. Donc on a perdu le meilleur pote la deuxième année de Winter Activity alors qu'on tout était rose et ouvert pour notre futur. Quoi. Donc ça c'est la deuxième année, voilà.
Okay.
Mais dans le monde de la montagne, on est un peu comme dans le monde de la mer d'où tu viens. on sait qu'il y a des risques, et quand tu perds quelqu'un, ben, ça fait partie des risques de la montagne. Après, on est triste et on le garde toujours dans notre cœur, hein, mais en tout cas, moi personnellement, il me manque régulièrement et j'y pense tout le temps, mais c'est comme ça.
Et ça, c'était quelle année, ça?
Ça, c'était en 2015 ou 16. 2016, je pense. 2015, on se blesse, et 2016, il décède.
Et du coup, est-ce que ça donne des idées, est-ce que les chaînes YouTube qu'on suivit sont en lien avec ça, ou est-ce qu'au contraire, t'as pivoté pour proposer un autre format?
Ben non, en fait, on a gardé... à la base, c'était son concept, donc on a essayé de respecter le fait qu'il fallait que ce soit divertissant, fallait que ce soit fun. Il disait tout le temps, si c'est pas fun, je le fais pas. Donc, c'était basique, hein, mais ça marchait. Et donc, on est resté là-dessus avec Solane. Après, Solane a intégré de son côté Julie, qui est rentré dans notre groupe comme troisième protagoniste. Mais si on n'est que trois, c'est parce que de base, on se quiait que tous les trois. Et en fait, dès qu'il y a un copain qui veut venir, il y a Antoine qui a fait des apparitions, qui s'est blessé à chaque fois. Bon, bah, ça, c'est vraiment Antoine, c'est pas de chance. Il s'est fait trois fois le ligament croisé, le pauvre. Il y a Seb qui est venu skier aussi avec nous. Dès qu'il y a des potes qui veulent venir skier avec nous, on est trop contents et on essaie de les intégrer au maximum. C'est vraiment, il n'y a pas d'équipe... précise, en fait, c'est juste les gens qui aiment rider ensemble. C'est ça qui est cool. Et on a gardé ça jusqu'à maintenant. Et maintenant, on se met à faire du parapente. Et il y a d'autres figures qui arrivent, parce que dans le parapente, c'est pas les mêmes compétences. Solane, il en fait un petit peu, mais il préfère le speed riding. Moi, je m'y suis du coup complètement interdit, vu que c'est quand même un sport relativement dangereux. Donc...
ouais, je comprends. Et le parapente, du coup, ça commence quand, tu dis?
Ça commence l'année dernière.
Ah ouais, c'est tout récent.
Ouais, en fait, j'ai eu un coloc qu'on a rencontré par hasard, qui était un pote avec qui on a skié une ou deux fois, et il s'est trouvé à venir habiter chez moi parce qu'on s'entendait bien et qu'il avait besoin d'un logement. Et au début, c'était un hiver, et puis maintenant, tu vois, il est là à l'année. Et il est moniteur de parapente, il est super bon en freestyle parapente, donc il fait de l'accro. C'est-à-dire qu'il fait des figures en l'air, ça part dans tous les sens. Et moi, comme j'avais appris à faire du parapente il y a une dizaine d'années, et que j'avais encore une aile, et ben je m'y suis remis doucement, et puis en fait il m'a redonné le goût, et là on fait des nouvelles vidéos en parapente, du coup.
C'est ça, du coup, la troisième chaîne YouTube?
Non, là on en a encore qu'à la première.
C'est énorme. C'est énorme.
Là, coup, c'est, coup, là c'est que Winter Activity encore.
Passer l'année à faire tout type de sport sur cette chaîne là quoi.
Ouais, bah du coup, on a fait du vélo assez vite quand même sur cette chaîne. La deux ou troisième année, moi j'aimais bien faire du VTT, du coup j'ai mis Solane au VTT. Et puis on faisait des vidéos de VTT en GoPro, on essayait de faire vivre des sorties un peu sympas où on montait à un endroit et on descendait sur des crêtes, on descendait après dans la forêt assez vite. Et comme on avait l'expérience déjà de filmer et de raconter les journées qu'on passait ensemble, eh ben, le fait de changer de sport, c'est pas forcément un problème, vu que la base de tout ça, c'est juste que ce soit divertissant. Donc, si on fait les bons montages, ça passe, quoi.
Bah, raconte-moi, du coup, comment ça se passe les deux autres YouTube, comment à faire en parallèle autant de vidéos, quoi.
Alors, la deuxième chaîne qui est arrivée, c'était Passion Rénovation, parce que Passion Rénovation... je sais pas pourquoi j'ai créé cette chaîne. J'ai acheté une maison, du coup, pour m'installer définitivement à Courchevel. Un truc des années 60. Enfin, c'est pas Courchevel, hein, parce que Courchevel, c'est hors de prix. C'était vraiment de l'autre côté de la vallée, mais en plein soleil. Donc, c'est vachement mieux. Il y a moins de neige, mais au moins, il y a plus de soleil. Et je m'y sens vachement mieux que si j'étais à Courchevel. Et donc, je me suis dit, comme je pars sur une rénovation complète... J'en avais déjà fait quelques-unes dans le passé où j'avais rénové des apparts, tout ça. Je m'étais dit, pourquoi pas essayer de filmer de la destruction en time-lapse, donc pour pouvoir passer en accéléré des murs qui se détruisent, des choses comme ça. Et j'ai filmé avec mon téléphone le premier time-lapse en détruisant le premier mur de cette maison. Et je me suis dit, il y a peut-être un truc là. C'était marrant de voir les briques tomber, d'aller remplir la remorque. Et puis, je trouvais que visuellement, c'était intéressant. Je me suis dit, en fait, les travaux, peut-être que visuellement, si tu le mets très, très vite, et ça peut devenir intéressant. Et en fait, je me suis mis à faire un premier épisode où je racontais un peu face caméra ce que je faisais. Et en gardant cette même règle de si c'est pas divertissant, faut changer la recette. Et du coup, en ayant beaucoup de rythme, beaucoup d'images qui vont très vite, où on voit ce qui se passe, et la petite communauté qui nous suivait déjà sur Interactivity, et ben ça a permis de lancer la chaîne Passion Rénovation, qui a atteint 300 000 abonnés cette année.
Excellent. Donc là, tu partages finalement sur cette chaîne tes façons de faire, ou tu invites aussi des experts peut-être pour leur faire parler aussi un peu de ce qu'ils font?
Non, c'est juste du partage d'expérience, donc je rénove ma maison comme au mieux, globalement, comme pourrait le faire une personne lambda qui s'attaque à une rénovation. Donc au début, tu apprends, tu fais un peu des erreurs, il y a des petites anecdotes où ça part un peu en cacahuète, et puis c'est ça qui est drôle, parce que ça rend le truc très humain, je pense. Et après, j'essaie de faire un peu des blagues quand même, pour que ce soit... Je suis pas humoriste, hein, donc voilà, comme je suis pas un professionnel du bâtiment, bah, des fois, ça part un peu en cacahuète, mais... mais c'est marrant, ouais. Et puis ça s'est fait que j'ai fait des épisodes, hein, toutes les deux semaines à peu près, parce que tout l'été, donc, je travaillais dans ma maison pour la rénover. Et j'essaie de continuer. Maintenant, je fais du jardin, donc j'essaie de garder un peu la même recette avec d'autres choses, donc c'est sympa. La rénovation n'est pas finie, hein. Il reste encore bien la moitié.
Ah ouais.
Ouais. C'est long.
C'est de la grosse maison, putain. Ou c'est de la grosse rénovation?
Je suis parti avec de la grosse rénovation, avec de la maçonnerie, avec de la toiture, avec de la charpente, avec des baies vitrées, des trucs, mais avec des planchers. Mais là, c'est vivable et c'est agréable. Donc toute la fin, où il me reste quand même deux salles de bain et quatre chambres à faire, c'est juste très long et puis j'ai plus envie. Donc je me fais des petites pauses de 6 mois où je fais autre chose, je fais du ski par exemple. Mais après, je vais m'y remettre là cet été, je pense. Il faut garder le goût parce que sinon, tu n'avances pas. Je connais tellement de gens qui se sont séparés, qui sont tombés en dépression à cause des rénovations. C'est vraiment un piège, hein, ce truc.
Finalement, tant mieux qu'il y ait ce genre de petite vidéo divertissante, comme tu le dis, pour garder le peps pour ceux qui sont en train de se...
C'est vrai, je reçois plein de messages de gens qui me disent « Ah, merci, c'est trop bien de te voir travailler vite. Au moins, on se dit que c'est accessible, c'est possible de faire des choses. » Et puis, la fin est peut-être pas si loin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste en stand-by et qui en ont marre. Ou alors qui ont tout abandonné et qui sont partis vivre à l'étranger parce qu'ils s'étaient lancés dans un truc. Et c'est pas parce que c'est... Enfin, c'est bien des professionnels qui font ça, hein, donc ça a du sens. Hein.
C'est excellent. Donc ça, c'est la deuxième, et il y en a encore une troisième.
Ok, la troisième chaîne YouTube, c'était il y a un an et demi ou 2 ans. En fait, qu'est-ce qui m'a fait me mettre au drone? Eh ben, c'est Eric encore. Eric, mon coloc qui est parapentiste, il était un peu passionné de drone à la grande époque du début du drone, donc en 2013, où tu étais obligé de mettre des micro-programmes dans des cartes électroniques, d'acheter des moteurs, d'assembler tout ça et de faire voler tes propres drones, où il a continué à faire un peu ça. Et quand est arrivé le drone FPV, donc le drone où tu mets un casque sur les yeux et tu vois exactement ce que le drone y voit en temps réel, et tu pilotes et en fait tu vas te balader comme ça, quand ça est arrivé et que c'est devenu très accessible, donc pour 80€ tu pouvais avoir un petit drone comme ça que tu te balades dans la maison, je me suis mis au drone FPV. Et en fait,
c'est... Alors, FPV, du coup, First Person View.
Exactement, ouais. Hey, connaisseur.
J'ai un super copain ici à Nantes qui est très très fan de drone aussi, ouais. Donc
C'est un piège. C'est un piège, le drone. La nuit, tu penses, attends, faut que je fasse ça comme configuration pour pouvoir faire ça. Après, je mets les moteurs là avec ce truc. Et ça sera mieux, ça marchera mieux. Je mets cette caméra. C'est un truc que tu penses jour et nuit quand tu t'y mets. Puisque c'est tellement complexe. Genre, on parle un langage entre mecs qui s'y connaissent un peu en drone FPV, qu'une personne lambda à côté, c'est du français, elle comprend rien. Mais rien!
C'est du langage technique, ou rien. C'est plutôt que des acronymes de initiales de...
Tu vois, pour tu reçois ton drone, tu l'as acheté. Il faut que tu bindes la FC avec la télécommande. Donc là, tu as compris télécommande, mais tu n'as pas compris bind ni FC. Et après, tu as tellement de marques qui font des choses avec des protocoles particuliers. Donc si tu veux utiliser un récepteur, il faut que tu aies un émetteur en face qui comprenne le protocole. Le protocole, il a un nom. c'est codé avec un certain truc et tout. Enfin, c'est un bordel. C'est vraiment un milieu de geek où faut s'y plonger à fond. Et du coup, je m'y suis plongé à fond pendant 6 mois. Et ça m'a plu. On a fait un peu des courses avec des copains. On était 5-6 à faire du drone. Et je me suis dit, c'est génial ce qu'on vit actuellement là, en faisant des courses. C'est trop génial. Donc, si on arrive à le transmettre en vidéo, ça pourrait être vraiment cool. Du coup, j'ai ouvert une chaîne qui s'appelait WAFPV. Winter Activity, WA. Et FPV comme FPV. Donc.
Excellent.
Et, ça, et ça, on n'a fait pas beaucoup de vidéos. On est à la 10e vidéo.
Ok. Mais pas poursuivi le truc plus longtemps que ça c'est...
Si, si, on continue. Mais en fait, on avait un super lieu où on pouvait faire des courses en intérieur dans des hangars. Parce qu'il y a un éboulement, un éboulement au-dessus de Moutier qui a cassé plein de une zone industrielle. Voilà, il y a eu un éboulement. Des énormes blocs de 40 tonnes qui ont traversé la zone industrielle. Donc, ils l'ont fermé. Ils ont tout évacué. Et elle est restée zone abandonnée pendant 5 ans. Ou même 10 ans. Et en fait, on allait là-dedans et c'était abandonné et ça allait être détruit. Donc, il y avait un arrêté qui allait le détruire. Donc, c'était génial. On pouvait se faire trop plaisir à envoyer les drones contre les murs. Et casser les murs pour faire des passages, pour faire des circuits, tu vois. Et donc, on faisait des circuits comme ça dans un lieu abandonné. Et c'était cool.
Maintenant, ils ont... T'as fait des compétitions de drones ou...
Non. Je me débrouille, mais alors, les compétitions, les gens, c'est des psychopathes.
Ouais, je confirme.
En fait, tu vois le gaming, avec les mecs qui jouent genre 12 heures par jour, et ben, y a la même chose dans les drones. Et des gars, ils s'entraînent genre 8 heures en réel par jour. C'est-à-dire que des batteries, on les tue en 1 minute 30 quand tu fais des courses. 1 minute 30, 2 minutes. Et donc, ils font 200 batteries par jour. 1 minute 30, mais ils font leur circuit, ils reposent, ils changent la batterie, ils refont leur circuit. Et c'est des autistes. Hein.
J'admets que, ouais, pour en avoir croisé un, c'est vrai que c'est... Le gars, on dirait pas comme ça, puis tu regardes la vidéo, et en fait, ça te donne mal au cœur. Rien que de regarder la vidéo en tant que...
Et il faut s'imaginer qu'il y a un petit peu de délai, de latence entre le drone et quand tu donnes une indication à ton drone pour tourner, tu as un petit peu de latence. Donc, il faut que ton cerveau il fonctionne en avance par rapport à ce que tu vois. C'est un truc de ouf.
Ouais, et du coup, tu te complais aujourd'hui à faire ces vidéos, toutes ces chaînes-là, tu les animes et ça te plaît ou est-ce que tu as encore d'autres projets dans les bacs?
Ça me plaît du coup beaucoup de surtout animer les vidéos. En fait, au début, je faisais tout. Donc, je faisais le montage, j'étais devant la caméra, je faisais la réalisation, j'organisais pour être sûr d'avoir toutes les images pour pouvoir raconter correctement les journées. Et le montage, ça me prend 2 jours pour monter une journée. Donc, à l'époque où sur 2 chaînes, je sortais une vidéo par semaine, globalement, je travaillais 4 jours en montage et je tournais 2 jours. Donc, un rythme, tu travailles 8 jours par semaine, c'est pas très intelligent et c'est pas facile de le tenir très longtemps. Du coup, maintenant, on est une équipe, on a monté une boîte de prod et donc, il y a des gens qui m'aident à filmer, à monter, à faire un peu tout ça. Et donc, on s'entend super bien, on est une équipe, on arrive à se rémunérer un petit peu, donc ça, c'est génial. Et tant que ça peut continuer comme ça, ouais.
Ok.
L'influence, hein, c'est ça qu'on appelle hein, influenceur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une communauté qui te suit et qui regarde régulièrement ce que tu leur offres, y a des annonceurs, des gens qui cherchent à faire de la pub, qui veulent parler de certains produits, et du coup, ils te payent pour en parler. Après, il faut que ce soit transparent, sinon c'est illégal. Donc, il faut que tu annonces, tu dis, voilà, ça, c'est une pub, je la fais parce que j'ai été rémunéré, mais je trouve ça intéressant quand même parce que le produit est intéressant, et hop, tu prends ton chèque. Et YouTube aussi inonde de pubs en ce moment, et ça, c'est à notre grand dame parce qu'on est... Moi, je supporte pas les pubs sur YouTube, et pourtant, c'est ce qui me rémunère. Alors, je pourrais me dire, quand même, je rémunère les gens et tout. Non, moi, j'ai Adblock, je regarde YouTube sur mon ordi et j'ai pas de pub. Mais là en plus le nombre de vues sur YouTube a diminué donc t'as 2 pubs 3 pubs, 4 pubs par vidéo, c'est horrible. Par contre ce qu'on fait c'est qu'on met pas de pub au milieu de nos vidéos Parce que ça, je trouve que ça dénature complètement la création. Quand tu regardes un film, t'as pas envie d'avoir une pub au milieu. Ils l'ont fait en télé et c'est nul. À la télé, quand t'as une pub toutes les 20 minutes, t'as envie de te suicider.
Au moins.
T'as pas envie d'aller aux toilettes, t'as envie de te suicider. Enfin, quand t'es réalisateur, que t'as mis 2 ans à faire un film et que t'as une pub pour un shampoing au milieu, c'est nul.
Est-ce que
on respecte les gens qui mettent de la pub au milieu de leurs vidéos pour se rémunérer, hein, après.
Ah bah oui.
C'est juste que je les insulte un peu quand elle apparaît et que je la regarde sur mon téléphone comme ça, parce que sur le téléphone, t'es obligé de te taper les pubs.
Bah, ils ont mis en place YouTube Premium maintenant. Donc c'est tu payes pour YouTube.
C'est vrai que je pourrais te payer. Mais quand tu payes YouTube Premium, tu dépenses 2 fois plus d'argent. Bon. Ouais, c'est vrai, je pourrais payer YouTube Premium. Mais moi, je dis YouTube. Pourquoi les gens qui ont des grosses chaînes YouTube n'ont pas accès à YouTube Premium? C'est nous qui faisons tourner la boutique.
Je suis d'accord.
Ils nous versent 1000 euros par mois sur chaque... Enfin, pas sur chaque chaîne, parce qu'il y a des petites chaînes, mais... Les grosses chaînes, on prend entre 1000 et 1500 euros de pub YouTube par mois. Pourquoi ils offrent pas YouTube Premium? On est les meilleurs communicants. On est leurs meilleurs communicants. Bref, de toute façon, le business, hein, ils font bien ce qu'ils veulent.
Est-ce que tu comptes t'arrêter un jour de faire de la vidéo? Parce que tu as d'autres projets dans les bacs.
Je pense que j'arrêterai à faire de la vidéo le jour où on ne pourra plus les diffuser. Parce que je fais globalement les choses pour moi, parce que j'adore ça. Des fois, je suis devant mon montage pendant 3 heures et j'adore. J'éclate de rire, je fais des petits trucs qui marchent, je suis trop content parce que je trouve qu'il y a des blagues qui, si c'est pas bien monté, ça marche pas du tout. Et le montage fait que c'est génial. Mais le fait de les diffuser, c'est quand même un truc qui est important. Donc, s'il n'y a plus d'internet, je pense que... Je sais pas, peut-être je ferai des petites vidéos et je mettrai un rétroprojecteur dans le gymnase en bas. Et j'inviterai tous les copains pour regarder une fois par an un film.
Un film qui durera plus que 26 minutes pour le coup, cette fois-ci.
Bah, ou pas, hein. Tu sais, le cours, c'est bien, hein, 15 minutes. Sur YouTube, on se fait entre 10 et 15 minutes, ouais. C'est déjà pas facile. Hein. C'est-à-dire que tous les 6 épisodes, on fait un long métrage. Et un long métrage, c'est normalement 2-3 mois de montage. Du coup, c'est énormément de travail. Hein. On s'en rend pas compte. Mais...
Tu les fais toujours aussi stroboscopiques ou est-ce que t'as...
Non, j'ai appris que les changements de rythme étaient intéressants. Du coup, rapide, pause, petite blague, sans musique. Après, ça repart. Ouais, les changements de rythme, c'est super intéressant, c'est le plus intéressant.
Qu'est-ce qui t'inspire du coup dans les vidéos? Comment tu fais pour te renouveler, pas faire de répétition, tu vois, entre les chaînes d'ailleurs en particulier? Comment tu fais pour... D'où vient l'inspiration?
Je sais pas, on réfléchit pas spécialement. Déjà, il y aura pas beaucoup de similitudes entre Passion Rénovation et Winter Activity, parce que c'est deux sujets très très différents. Il y aura pas beaucoup de similitudes entre ma 4e chaîne YouTube... qui s'appelle Watoto, et bien entendu, sur de l'automobile.
Excellent.
Parce qu'on a tous un petit côté beauf en nous, qui aime la grosse mécanique et tout ça. Et en fait, je trouve que l'époque nous force un peu à la refouler. Et il y a des créneaux sur YouTube là où il y a des mecs qui font n'importe quoi et c'est hilarant. La boiserie, allez voir la boiserie, c'est hilarant. C'est un mec qui est dans une campagne et qui fait n'importe quoi avec des voitures, avec des tractopelles, avec des motos.
En mode destruction ou en mode...
Ça n'a pas de mots. En ça mode tout. Il les prépare, il les bricole, en même temps il les détruit, en même temps il en fait des trucs improbables. C'est spécial. Nous, on va pas faire des trucs aussi fous. Hein. Mais si c'est juste se faire plaisir sur la route, partager un... sur la route, se faire plaisir, on s'entend, doucement. Mais partager des bons moments, essayer des voitures, par les bagnoles.
Et ça t'est venu comment? Enfin, c'est trouver un créneau? Est-ce que c'est changer un peu ton quotidien ou est-ce que
En fait, je suis un influenceur, mais je me fais carrément influencer. C'est encore Eric. Et il m'a remontré des vieilles vidéos et des vieilles photos parce que lui, il était avec ses potes, avec des Golf GTI et tout, à la grande époque, il y a 15 ans. Et du coup, je me suis rappelé qu'avec mon père, on s'amusait avec une deux chevaux dans le verger et que c'était génial. Et du coup, bon, j'ai eu des petites j'ai quand même plié deux, trois voitures. Donc maintenant, avec l'âge, je vais faire ça de manière un peu intelligente. Des erreurs fort, de pilotage. Comment ?
Tu les plies moins fort, tu veux dire ?
Non, on va pas les plier. Ou alors, on va les plier intentionnellement. Parce qu'on a quand même un petit peu une idée, c'est que la vieille Mégane là, que j'ai, qui est vraiment au bord de la rupture, qu'on l'éclate contre un mur à 30 à l'heure, juste pour voir ce que ça fait. Mais il y a un airbag et tout, t'inquiète.
Non, mais je veux dire, faut pas se rater, parce que tu peux le faire qu'une fois, quoi.
30 à 30, tu meurs pas.
Non, mais dans le sens...
Avec la ceinture et tout, hein.
Avec ta vidéo, quoi. Faut pas se rater sur la vidéo, parce que tu peux pas le faire deux fois.
Finaise, si Ulysse, il oublie d'appuyer sur record, je vais lui en vouloir.
Non, mais c'est drôle. En fait, à partir du moment où t'as des idées, et puis des idées dans l'équipe, ça manque pas.
C'est top, hein. Écoute, j'ai une question pour bien comprendre. Tu as beaucoup fait ça d'abord seul, puis tu arrives effectivement en collaboration donc avec Eric en particulier, et puis arrive maintenant, tu m'as dit Julie, elle s'appelle ?
Ouais, il y avait Solane et Rémi aussi à l'époque.
Solane, Rémi.
Julie, ouais, maintenant, il y a plein de monde en fait qui gravite un peu autour de tout ça.
Et donc tu mènes un peu cette barque un peu de front, tu étais le meneur de toute cette équipe de films, et tu disais que tu te fais influencer aussi par tes équipes. Est-ce que tu as envie de continuer à faire les choses en équipe, ou est-ce que tu avais aussi des projets que tu voulais faire tout seul, qui ne regardent que toi et qui seraient peut-être même un peu secrets?
Ouais, carrément, non, pas du tout. J'aime bien passer du temps tout seul et faire des trucs tranquilles dans mon coin, mais je ne communique pas dessus parce que ça ne pourrait être intéressant. Et je préfère vraiment être dans une ambiance un peu d'équipe, parce que l'interaction entre les gens, c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est intéressant quand t'es tout seul. Mais du coup, c'est moi qui essaie de tirer un petit peu les gens vers des nouveaux trucs, ou juste vers une session en parapente qui va être intéressante, parce que je regarde la météo et tout, je prépare tout, je prépare les GoPro, je recharge les batteries, et puis après je colle une GoPro sur chacun, c'est parti.
Bon bah écoute, c'est top. On va bientôt arriver à une heure de discussion et je suis très content parce que
c'est passé très vite, hein.
On se rend compte que ça se passe bien. J'ai trois questions pour toi avant qu'on se quitte. La première, c'est si tu devais conseiller quelqu'un qui veut se lancer un peu dans ce même format là alors j'ai envie de dire influenceur, je pense que c'est peut-être ça pour résumer un peu la discussion, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire, c'est quoi les étapes?
Je pense pas que je puisse encourager qui que ce soit à devenir influenceur, parce que c'est vraiment pas un truc mieux que le reste. On imagine, c'est comme les stars de cinéma à l'époque. On se dit, ouais, c'est génial, c'est des stars, on les reconnaît dans la rue, ils sont riches, ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie, ils sont libres. Mais en fait, chacun est vraiment... j'ai pas fait ça parce que je recherchais ça, en fait. Je pense que n'importe qui, s'ils veulent faire ce que je fais, faut qu'ils veuillent faire ce qu'ils ont envie de faire eux d'abord, et si ça les mène au même endroit, bah ce sera super pour tout le monde. Mais si je fais ce que je fais actuellement au niveau des vidéos, c'est juste parce que ça me plaît. Et essayer de plaire aux gens, mais de toute façon on peut pas plaire à tout le monde, ça c'est impossible. J'écoute très régulièrement les critiques, hein. Après cette année encore, on a fait face à pas mal de virulence, parce que notamment au niveau du ski, on se place sur un créneau de ski freeride qui dans des périodes où tout le monde est confiné, tout le monde est frustré, est super dur de voir des gens libres s'amuser en pleine montagne alors que t'es rentré chez toi. Donc clairement, il y a des gens qui... Ça c'est un des mauvais côtés de l'influence. C'est quoi que tu fasses, il y a des gens qui vont dire t'es un petit con, tu fais de la merde, et en plus ce que tu fais c'est de la merde. Donc il faut pas croire que c'est tout rose. Mais si le seul conseil c'est fais-toi plaisir, trouve quelque chose qui t'inspire et que t'aimerais regarder, en tout cas en termes de vidéo ou en photo. À partir du moment où tu fais quelque chose que t'apprécies regarder ou que t'aimerais voir les autres faire, ben, je pense que t'as gagné, parce que ça te plaît à toi déjà, c'est le principal.
Je suis bien d'accord. C'est un peu ce que je raconte aussi par rapport à ce podcast. Je le fais avant tout aussi pour rencontrer moi, ces personnes-là que j'ai comme aujourd'hui.
Petit égoïste. On est tous égoïstes, hein. De toute façon, on est obligé de faire les choses pour toi, sinon ça ne marche pas. Le gars qui veut devenir influenceur, il n'a rien compris. Il faut être passionné, peut-être. C'est peut-être ça la clé, c'est être passionné par ce qu'on fait pour être passionnant et que des gens, du coup, te regardent et par effet rebond, tu deviens influenceur parce que t'as plein de gens qui te regardent. Mais alors, jouer l'influenceur pour devenir influenceur, en général, ça marche pas très bien.
La question, elle est vite répondue. Hein.
Grave.
Donc deuxième question, c'est est-ce qu'on peut lister maintenant l'ensemble, parce que pour le coup, toi, il y en a quand même un certain nombre de choses, où est-ce qu'on peut te suivre, l'ensemble des canaux sur lesquels on peut te suivre?
Impossible de tout lister. Mais je crois même qu'en tapant mon nom sur Google, tu ne trouves pas toutes les chaînes, tu ne trouves pas tout ça. Donc, mais c'est très bien, parce que ça veut dire que les canaux de diffusion qu'on utilise, à chaque fois, sont ciblés. C'est-à-dire que la chaîne de OFPV, elle s'adresse aux gens qui aiment le FPV, et les gens qui me regardent faire de la rénovation, j'ai aucune envie il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils regardent les chaînes de FPV, parce que ça ne va pas leur parler. Donc si vous tombez sur des trucs, si vous me voyez, bah, c'est que vous êtes au bon endroit, mais vous ne serez pas tombé là par hasard, normalement. Après, avec YouTube, c'est vrai que des fois, tu tombes sur des trucs un peu spéciaux. Si tu traînes trop longtemps sur YouTube, tu vois des trucs qui sont bizarres.
T'as un compte sur Insta aussi?
Ouais, j'ai un compte sur Instagram qui s'appelle Michael Bimboest. Donc ça, c'est mon compte perso, vers lequel j'envoie un petit peu sur les autres comptes. Donc, j'ai un compte Passion Rénovation, j'ai un compte Interactivity, et j'ai un compte WFPV. Bientôt un compte Toto. Et j'ai pas de community manager. C'est ça qui est le pire. C'est pour ça que je lis pas tous vos messages.
On fait un appel
Non, t'es fou. C'est un métier... Je respecte énormément les gens qui font ça parce que c'est un métier trop dur. Et du coup, moi, je publie pas énormément. Je fais juste ce qui me plaît quand je veux. Quand j'ai une idée, j'ouvre Instagram. Mais sérieux, mais faut pas que ça devienne un métier. C'est un câble.
Écoute, dernière question pour toi, c'est si on avait la techno pour te renvoyer dans le temps ou te faire rencontrer Mickaël, qui est encore en licence STAPS, qu'est-ce que tu lui dis?
Ouais, c'est dur, ça. Surtout, je dis rien, je me cache, parce que sinon, c'est faille spatio-temporelle, hein, tu connais. Hein. Après, tu t'annihiles de l'autre côté, tu t'annihiles de ton côté. Tu n'existes plus si tu parles à ton. Faut surtout pas changer le destin. Il y a un destin, il est là, ça se déroule. Si tu dois mourir, ben tu meurs.
Merci en tout cas, Mickaël, pour ce super temps. J'étais ravi de faire ta rencontre, ta e-rencontre, comme on dit. Mais
c'est grave. J'aurais bien voulu en apprendre un peu plus sur toi, du coup, parce que dans cette heure, je n'ai pas appris beaucoup. Mais je vais te suivre dans tes projets futurs, notamment dans la voile.
C'est vrai que là, c'est le but du podcast est souvent d'abord pour mettre en avant la personne que j'ai en face, mais on peut
discuter. J'aurais pu te poser exactement les mêmes questions.
Ouais, c'est tout à fait. Bah, c'est aussi pour ça que c'est hyper informel et que ça me plaît comme cool. Format, quoi.
Trop bien, merci à toi en tout cas pour ton accueil chaleureux.
Avec grand plaisir. À très bientôt, Mickaël.
À plus, ciao.
Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins 2 personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. À bientôt.